L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Nicolas.
On va parler ce matin de la visite ministérielle de Manuel Valls en Nouvelle-Calédonie. Vous recevez le député de la première circonscription.
Notre invité du matin, c'est Nicolas Mezov. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation alors que le ministre des Outre-mer poursuit effectivement sa visite en Nouvelle-Calédonie. Il doit partir en principe ce soir. Alors c'est une visite pour convaincre du bien fondé de l'accord de Bougival, on l'a bien compris. Manuel Valls rencontre beaucoup de gens, il fait beaucoup de pédagogie. Il a raison, c'est ce qu'il faut faire à ce moment précis.
Oui, je pense qu'il a raison de voir autant de monde et je crois que ça participe à l'évolution de son discours sur la Nouvelle-Calédonie. On voit bien qu'on ne retrouve pas le Manuel Valls de ses premiers séjours avec des déclarations tonitruantes sur peuple premier, décolonisation, etc. On est un Manuel Valls qui est plus dans le concret et la réalité du quotidien des Calédoniens. Donc je pense que c'est notamment grâce à ses rencontres avec les Calédoniens, oui.
Alors le ministre a installé jeudi le comité de rédaction. Il l'a réuni samedi, il y a une nouvelle réunion cet après-midi. Qu'est-ce que vous faites dans ce comité? À quoi est-ce qu'il sert exactement? Ça a l'air un peu technique, politique, on ne sait pas trop.
Ah non, pas du tout. Le terme est explicite. Comité de rédaction, c'est-à-dire on rédige. Et qu'est-ce qu'on rédige? On rédige là, aujourd'hui, et depuis la semaine dernière, le projet de loi constitutionnelle, c'est-à-dire l'écriture.
Il y avait déjà un projet qui avait été mis sur la table par le ministre.
Oui, oui, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Il y a un projet, il y a un brouillon, entre guillemets, qui est posé sur la table. Et puis ensuite, les délégations proposent des modifications, des ajouts, des retraits. Et donc là, on est en train de finaliser ce projet de loi constitutionnelle, donc la modification de la Constitution de la République française. Et par exemple, nous, on a demandé à ce que soit ajouté qu'en cas d'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, tous les Calédoniens pourraient garder la nationalité française, ce qui a été accepté.
C'est l'un des points de litige, c'est l'un des points sur lequel vous interrogez beaucoup vos sympathisants, vos militants.
Oui, alors... Moi, je pense, mon analyse, c'est qu'avec 64% des élus du Congrès qui doivent demander un transfert de compétences, plus une ouverture du corps électoral, plus une modification des sièges du Congrès, si on atteint quasiment deux tiers des indépendantistes au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, avec ou sans Bougival, je pense que l'indépendance n'est pas loin. Donc ça sera évidemment très difficile d'arriver à ce score s'il n'y a pas une entente entre indépendantistes et non-indépendantistes. Mais comme les non-indépendantistes sont contre l'indépendance, je pense que ça n'arrivera pas. Mais c'est une inquiétude forte de notre électorat. Et donc, on a demandé effectivement que soit précisé ce point qui, je pense, tend à rassurer les Calédoniens sur le fait que si jamais il y a une majorité pour transférer toutes les compétences régaliennes à la Nouvelle-Calédonie, que la nationalité française demeure la nationalité des Calédoniens.
Il y a d'autres modifications importantes dans ce PLGC au point où vous en êtes actuellement. Il y a beaucoup d'éléments que vous avez pu rajouter.
On va dire que la nationalité, c'est le point majeur. On a des questions aussi de qu'est-ce que va pouvoir autoriser la loi constitutionnelle pour la loi organique spéciale derrière. Parce que vous savez que la loi organique, qu'on va travailler ensuite dans un deuxième comité de rédaction, dépend de la rédaction du projet de loi constitutionnelle. Mais on va dire que la place des provinces est aussi traitée, la question des critères de nationalité aussi. Donc voilà, c'est un travail technique, mais à la fois très politique aussi.
Alors un comité de rédaction sans le FLNKS, il avait annoncé de toute façon qu'il n'y participerait pas, il est revenu sur la signature de sa délégation. Est-ce que c'est possible de mettre en œuvre l'accord de Bougival sans le FLNKS ?
Moi, j'ai envie de dire que déjà, on fait une erreur de langage qui est stratégique, c'est-à-dire qu'on appelle le FLNKS le FLNKS. Le FLNKS, c'est quoi? C'est l'UPM, c'est le PALICA, c'est le RDO et c'est l'Union calédonienne. Aujourd'hui, l'UPM et le PALICA ont quitté le FLNKS. Donc c'est un FLNKS déjà qui marche sur une jambe. La deuxième chose, c'est qu'on voit que l'Union calédonienne... on ne sait pas trop comment elle se positionne parce que son président, M. Tchibaou, on ne l'entend pas depuis Bougival. Il a signé Bougival et on ne sait pas quelle est sa position sur l'accord. Donc on voit que déjà au sein du FLNKS, le parti qui reste, l'Union calédonienne, ce n'est pas très clair. Ensuite, le RDO, Alosio Sacco, lui, était très favorable à Bougival. Donc, les quatre partis historiques du FLNKS, la position, enfin, sauf pour ceux qui sont partis, mais les deux autres qui restent dedans, c'est pas très clair. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont rajouté au sein du FLNKS ? Mais tous les groupuscules extrémistes de la CCAT, en fait, tous ceux qui ont fait la CCAT. Donc, c'est plus quelque part aujourd'hui, quand on voit, quand on dit le BP du FLNKS s'exprimer, j'ai plus envie de dire, mais c'est la CCAT qui s'exprime, puisque c'est Henri Jouni, Dominique Fauchy, Marie-Pierre Goyetch. Donc, c'est tous ceux qui ont mis en œuvre la CCAT. Donc, c'est faux de dire que c'est le FLNKS. Donc, la réponse à votre question, pardon, Elisabeth Noir, c'est de dire oui, on peut avancer sans eux, parce que la CCAT, de toute façon, sera toujours contre tout accord en Nouvelle-Calédonie, puisque leur seul objectif, c'est l'indépendance kanaki en 2025, le 24 septembre. Donc, on ne peut pas discuter sur ces bases-là.
Avec une petite polémique, entre guillemets, avec Christian Théin, le président du nouveau FLNKS, on va dire, puisqu'effectivement, on ne sait plus comment les appeler. Le ministre a dit qu'il avait donné son accord à sa délégation pour signer l'accord de Bougival. Le Christian Théin dit absolument pas, qu'il n'était même pas à Bougival.
Mais moi, je l'ai vu, Christian Théin, à Bougival. Donc, on n'est pas des menteurs, quand même. Il était là le matin de la signature, Christian Théin, à l'hôtel. Il n'a pas signé, évidemment, mais il était là, dans le patio de l'hôtel, comme on dit. Et puis, à chaque jour à Bougival, la délégation du FLNKS nous le disait très officiellement qu'ils allaient rendre compte à Christian Théin des avancées des discussions. Donc, Christian Théin a participé, qu'il soit présent à l'hôtel ou non, directement aux négociations. Donc, quand Christian Théin vient à 5h du matin à l'hôtel et qu'à 6h du matin, la délégation du FLNKS signe, ça veut dire quelque chose. Vous pensez que si Christian Théin s'était opposé à la signature du FLNKS, une heure après sa présence, la délégation aurait signé. Donc, il y a un moment donné, je pense qu'il faut qu'il assume, Christian Théin.
Est-ce que vous avez des nouvelles de votre collègue Emmanuel Tubaou ? Tout à l'heure, vous aviez l'air de dire que il semble que non, vous ne savez pas où il en est, il a signé depuis qu'il a été désavoué.
Non, on n'a pas de nouvelles du collègue Tibaou depuis le comité directeur de GATOP de l'Union Calédonienne.
Alors en attendant, le ministre des Outre-mer a présenté un calendrier extrêmement contraint pour la mise en œuvre de Bougival. Est-ce que ce calendrier va pouvoir être tenu et notamment, est-ce qu'il y aura une majorité à l'Assemblée nationale ? Quel est le positionnement de vos collègues de LFI et du Rassemblement national notamment ?
Alors, LFI, c'est même pas la peine d'y compter, hein, parce qu'ils invitent Christian Théin à leur meeting d'été. Ils disent des inepties plus grandes les unes que les autres. Ensuite, la majorité, je pense qu'elle peut se faire en partant du Parti socialiste jusqu'au RN. Je pense que le RN sera favorable. Il va falloir discuter un petit peu avec eux, et Marine Le Pen notamment. Je pense que les socialistes, eux, sont proches de l'Unipalika, historiquement, donc ça devrait aller, mais ça va être un gros travail. Et puis aussi, il faut dire une chose, c'est que on a tendance à l'oublier, c'est que les élus calédoniens pensent qu'à eux tout seuls, ils peuvent changer la constitution de la République française. Mais il va y avoir des débats à l'Assemblée nationale. Au-delà d'être pour ou contre Bougival, il va y avoir des détails techniques et politiques qui vont faire débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. Parce qu'en fait, quand on touche la constitution de la République française, on touche la constitution de tous les Français. Et donc forcément que les sénateurs et les députés vont avoir des choses à dire. Donc je pense qu'il va y avoir une majorité, si on va jusqu'au bout, mais il va y avoir des débats.
Et vous pensez que la réunion du Congrès de Versailles en décembre, comme l'annonce Manuel Valls, ce sera possible malgré le climat politique national, malgré les risques de chute du gouvernement Bayrou ?
On est toujours soumis aux aléas de la politique nationale. Alors, s'il n'y a pas de censure, le Congrès de Versailles en décembre, c'est sûr. S'il y a une censure, ça peut retarder. C'est-à-dire que la censure, en fait, on est obligé d'attendre que le gouvernement soit reformé derrière, que Emmanuel Macron nomme un Premier ministre et que le Premier ministre nomme son gouvernement. Le scénario le plus risqué pour nous et pour Bougival, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Parce que si il y a une dissolution de l'Assemblée nationale et que la majorité change, typiquement si l'extrême-gauche remporte la majorité ou LFI est très puissant à l'Assemblée nationale, ça risque de nous compliquer la tâche. Donc on va dire qu'une motion de censure, c'est une question de calendrier. La dissolution de l'Assemblée nationale, c'est un réel risque. Après, je pense que pour en avoir discuté avec le président de la République, il n'y aura pas de dissolution. Et je ne sais même pas si la censure, il y aura une majorité pour qu'elle passe.
Et dans l'état actuel, la majorité est 3/5, c'est possible au Congrès de Versailles ?
Oui, alors c'est théoriquement possible, évidemment. Il va falloir aller chercher. Il y a un groupe qui est important aussi, on en parle peu, mais parce qu'ils sont très représentés au Sénat, c'est les LR. Hein, c'est la droite classique de Bruno Retailleau. Donc ça nous fait quand même un apport de voix qui est important. La Macronie est quand même là en force. Il faut traiter le RN, c'est essentiel. Il y a une discussion à avoir avec, comme je le disais, Madame Le Pen. Et puis, c'est toujours bien si les socialistes peuvent nous aider à être tranquilles. Donc je pense que vraiment la majorité va se jouer du Parti Socialiste au RN.
Alors Emmanuel Valls a également a eu beaucoup de rencontres, on le disait, et il a aussi parlé de la situation économique et sociale dramatique. Il a notamment fait des annonces dans le domaine de la santé. Est-ce que vous avez pu lui parler du versement de la deuxième tranche du PGE et où en est-on pour l'instant?
Oui, je dois dire que Manuel Valls se rend de plus en plus compte de la situation dramatique dans laquelle nous sommes au niveau économique et social. Il voit des chefs d'entreprise régulièrement qui leur dit exactement la situation économique du territoire. Il a été visiter la Banque alimentaire qui a doublé quand même sa distribution de repas entre 2023 et 2024. On est passé de 120 tonnes de produits alimentaires distribués l'année dernière à 240 tonnes cette année. Et puis, je crois que du coup, ces équipes travaillent énormément avec Alcide Ponga et Christopher Gigès. Même encore aujourd'hui, il y a des réunions et des échanges qui se font sur le versement de cette deuxième tranche de 240 millions d'euros qui devrait, je pense, enfin être versée pour pouvoir sauver tout simplement... au-delà de l'économie calédonienne, au-delà des institutions de la Nouvelle-Calédonie, mais le niveau de vie des Calédoniens.
Vous-même, vous êtes tenu de nombreuses réunions sur le terrain ces derniers, depuis que vous êtes revenu sur le territoire. Globalement, les réactions de vos sympathisants, de vos militants, ils sont plutôt confiants, ils soutiennent plutôt Bougival, ils vous posent beaucoup de questions. Comment vous sentez les choses? Parce qu'on parle beaucoup de l'opposition des indépendantistes, enfin du FLNKS, mais peut-être moins dans le camp des réactions dans le camp des partisans de la France.
Je trouve qu'il y a aujourd'hui dans notre électorat, dans nos sympathisants, un soutien assez important à Bougival, aujourd'hui à l'accord de Bougival, puisque je pense que le travail de terrain, d'explication a été fait par les délégations non indépendantistes. Donc aujourd'hui, je trouve qu'il y a une grande majorité des non indépendantistes en faveur de l'accord. Maintenant, les questions ne relèvent plus trop de l'accord en lui-même, mais de la situation politique, c'est-à-dire est-ce que les questions que vous me posez, tout simplement, est-ce que on sera capable d'aller jusqu'au congrès de Versailles, d'aller jusqu'au référendum prévu pour valider ou non l'accord de Bougival, en sachant que Christian Théin et la CCAT se sont retirés du dossier. Donc, on leur répond ce que je vous réponds aussi, du coup, c'est que nous, on pense que ça peut aller jusqu'au bout et qu'il faut faire preuve de détermination, qu'aujourd'hui, autour de la table, à part le FLNKS-CCAT, mais il y a le PALICA, le Parti de Libération Kanak, il y a l'UPM, l'Union Progressiste en Mélanésie, il y a le Sénat coutumier quand même, c'est pas une mince affaire, il y a le CESE maintenant, il y a Calédonie Ensemble, l'Éveil Océanien, le Rassemblement, les Loyalistes, enfin, tout le monde est là, en fait, tout le monde est là.
Alors le ministre doit partir ce soir en principe. Vous allez rejoindre Paris rapidement également maintenant. Ça va être la rentrée parlementaire bientôt et vous allez devoir vous impliquer dans la mise en œuvre législative de l'accord.
Oui, ça c'est mon métier. Donc c'est vrai que j'attends d'avoir le calendrier de la rentrée parlementaire exact, mais certainement que je devrais partir fin septembre et ça va être un tunnel de 3 mois. Septembre, octobre, novembre et même décembre. Où on va parler de la Nouvelle-Calédonie tout le temps, parce que d'abord, il y a le projet de loi qui va décaler les élections, puis il va y avoir le projet de loi constitutionnel, puis il va y avoir le congrès de Versailles, puis il va falloir préparer loi organique spéciale plus loi fondamentale, la consultation à préparer des Calédoniens. Donc oui, il y a du boulot devant nous, mais il y a un côté rassurant à ça, ça veut dire qu'on arrive à la fin. On arrive à la fin du processus, c'est-à-dire qu'il y a eu 3 référendums, on a mis du temps pour trouver un accord, il y a un accord, maintenant on est dans l'exécution juridique de l'accord. Mine de rien, je trouve qu'on avance. Je trouve que la Calédonie avance à petits pas, ça ne se voit pas assez rapidement, et peut-être que pour le monde économique, certainement d'ailleurs pour le monde économique, ça ne va pas assez vite, parce que le temps politique n'est pas le temps de la vie quotidienne. Mais politiquement, ça progresse. Vous voyez, aujourd'hui, on est en train de rédiger la modification de la Constitution qui intègre la Nouvelle-Calédonie dedans. Et la prochaine fois, ça sera la loi organique spéciale. Donc je trouve que, pour être positif ce matin, je trouve que les choses avancent. Elles avancent doucement, certes, mais elles progressent. Donc écoutez, c'est tant mieux. Si on a du travail à la rentrée parlementaire, ça veut dire que les choses évoluent.
le député Nicolas Mezdorf. Merci d'accepter notre invitation.
Merci beaucoup.
Une interview que vous pourrez réécouter et visionner sur notre site internet, le www.rrb.nc.